on en était au droit à la vie. Alors évidemment, parmi les crimes contre le péché, contre le droit à la vie, il y a effectivement l'homicide, spécialement le meurtre, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation. Et il y a homicide, mais non pas meurtre, lorsqu'il y a légitime défense. Mais celle-ci doit être proportionnée. Et là aussi, c'est là où on va voir que le droit positif va, d'un pays à l'autre, être très différent. En France, en gros, si vous tuez un cambrioleur, on va estimer que c'est disproportionné. Aux États-Unis, non, hein, parce qu'il y a une telle, comment dire, une telle importance sur le droit personnel de propriété. Mais voilà, celui qui tue quelqu'un qui n'a rien à faire chez vous, enfin, c'est qu'il n'a rien à faire chez lui, eh bien, normalement, n'est pas inquiété. Cependant, donc, dans ce cas-là, la légitime défense entre dans la catégorie de ce qu'on appelle le volontaire indirect. Hein, le volontaire indirect, c'est le fait, c'est vrai, de provoquer un mal, mais ce n'est pas ça qui est directement voulu et recherché. Donc, ce n'est pas la mort de l'agresseur qui est directement visée. Alors ça, c'est une notion qui sera très importante quand on verra la notion de guerre juste. C'est pas la mort de l'adversaire qui est visée, mais ce peut être une conséquence. Cependant, il est bien entendu que la légitime défense ne peut pas être anticipée ou préventive. Hein, celui-là, j'imagine bien qu'il veut me cambrioler, donc je vais le tuer. Voilà. Alors, on aborde la question délicate de l'avortement. Justement, on en a déjà dit un mot, mais... Donc l'avortement est aussi considéré comme une atteinte à la justice, donc indépendamment du fait de savoir si la vie proprement, à quel moment la vie proprement humaine apparaît, hein, dès la conception ou après quelque temps, pour que l'organisation cellulaire puisse être assumée par une âme proprement humaine. Alors ça, c'est une querelle entre philosophes qui existait déjà au Moyen-Âge. Bon, c'est un problème philosophique qui, à mon avis, n'est pas en soi résolvable. Mais de toute façon...
Par rapport à la contraception et même la...
L'utilisation des méthodes naturelles.
Oui, c'est ça. Le fait de dire, je fais en sorte de ne pas avoir d'enfants.
Oui, oui.
Parce qu'il y a, comme moi, j'ai des cousins qui ont 13 enfants.
Oui, là, oui.
Et oh, bon, on aura autant d'enfants que
mon Dieu nous donne. Oui, ça c'est...
Bon, et finalement, c'est vrai, d'un point de vue philosophique, le fait de dire... Ben, je fais en sorte de ne pas avoir d'enfant, d'une certaine manière, ça empêche de vivre.
Oui, non, mais il y a une différence essentielle. Hein, c'est que dans le cas de l'avortement, il y a une vie humaine qui est déjà en jeu.
Hein,
c'est quand même très, très différent que l'on supprime. Bon, la contraception, c'est le fait de poser un acte qui fait que l'on n'aura pas d'enfant. C'est quand même, je pense, très, très, très différent. Il n'y a pas de personne, comment dire, potentielle. Enfin, il n'y a pas... en revanche, si un être humain est déjà là, l'avortement met fin à la vie de cet être humain-là.
Alors, vous ouvrez notre chapitre, mais alors, pourquoi, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus... L'Église, à un moment donné,
prend
des positions de cette nature contre la contraception.
Ah non, c'est différent. Enfin, l'Église prend position contre la contraception, mais c'est, encore une fois, un autre type de raisonnement d'exigence morale que l'avortement. Et on ne peut pas mettre ça sur le même plan.
Oui, hein?
Le Concile Vatican II parle de l'avortement comme d'un crime abominable.
Oui, okay.
Hein? Bon. Donc, la seule chose, le doute, entre guillemets, c'est qu'on ne sait pas à partir de quel moment, en tout cas, c'est une discussion philosophique, est-ce qu'il y a des défécondations de l'ovule, est-ce qu'il y a un être humain, on peut dire, il y a au moins une personne potentielle, hein? Mais certains diront, oui, mais il peut toujours apparaître à ce moment-là des jumeaux. Donc, qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il y a deux êtres humains, parce que le principe de l'animation, c'est au moment où cet amas de cellules est animé, mais d'une âme humaine, pas simplement d'une âme qui lui permet de vivre, hein, mais d'une âme humaine. Bon. Ce qu'on peut appeler une personne potentielle. Bon, mais même dans ce cadre-là, bon, est-ce que c'est un être humain ou est-ce que ça n'en est pas ? Bon, alors, si on dit qu'on ne sait pas, ben, le principe de morale de base, c'est dans le doute, on s'abstient. On ne peut pas courir le risque de... Ou on dit que c'en est...
L'âme est antérieure, l'existence de l'âme est antérieure à la...
Ah non, parce que dans ce cas, ça veut dire qu'on croirait en la mettant psychose. Non, une personne humaine, c'est une âme incarnée ou c'est un corps animé. C'est exactement la même réalité. Mais il n'y a pas de préexistence. Non, il y a pas. Ah bah oui, ça, tout à fait. Mais là, vous êtes à l'autre bout là. mais il n'y a pas pour l'Église, c'est très clair qu'il n'y a pas de préexistence de l'âme. Le tout, c'est de savoir quand est-ce que l'âme humaine, on est devant vraiment un être humain. Et là, il y a une discussion. Certains vous diront, comme des gens très, très savants, comme le professeur Lejeune, vous dit dès qu'il y a conception, il y a tout le programme génétique qui est déjà présent, donc de deux principes vitaux. Eh bien, dans ce cas-là, il y a déjà une personne humaine. Bon. Mais encore une fois, c'est une question que l'Église n'a jamais voulu trancher philosophiquement. Mais il n'empêche que, à partir du développement de l'embryon, on a une personne humaine. Et donc la réponse de dire, ou bien on ne sait pas si c'est un être humain, encore une fois, on sait rien. Et si on dit, non, c'en est pas un, comment expliquez-vous qu'il le devienne ? C'était un exemple que donnait le professeur Lejeune, mais qui était très parlant. Imaginons ce qu'il ne souhaitait pas, mais une gestation absolument extra-utérine, qu'on puisse vraiment faire un enfant dans une bouteille, si je puis dire. Si la bouteille disait « cet enfant m'appartient », personne ne croirait la bouteille. Nous saurions donc expérimentalement qu'un enfant n'appartient ni à son père ni à sa mère, mais qu'il s'appartient, qu'il est déjà sujet. Et c'est ça. Et donc, à ce titre-là, sa vie, c'est un bien qui n'est pas communicable. Voilà, c'est ça le... Alors.
Oui, mais aussi parce que.
Il y a un être humain, c'est-à-dire que.
À quel moment ? Parce que si c'est pas dès le début, c'est à quel moment ?
Alors c'est une question qui est laissée. Alors certains philosophes vous diront, mais il faut attendre qu'il y ait une certaine organisation de la matière déjà pour qu'il y ait capacité à être animé. L'âme, c'est le principe d'organisation, d'être animé d'une âme immortelle, vraiment humaine. C'est ça qui fait qu'il y a un être humain. Bon, encore une fois, je ne veux pas entrer dans la discussion philosophique, mais en tout cas, voilà. L'Église estime, avec de très bons arguments, qu'on a, saint Thomas, je crois, emploie l'expression de ce monde personne potentielle. C'est qu'au moins, on a une personne en puissance. Mais aussi, dans le jugement moral que l'on est appelé à porter là-dessus, il faut tenir compte du contexte, donc d'une évaluation morale, parce que peuvent jouer aussi donc la pression familiale ou sociale, la lâcheté de l'homme, enfin du géniteur, qui n'assume pas, etc. Ou le manque aussi de structures d'accueil et d'accompagnement de la part de l'État. Alors, une fois, c'est pas du tout. C'est dans l'ordre de la circonstance. La circonstance ne transforme jamais un acte mauvais en acte bon. Mais la circonstance peut atténuer, voire supprimer totalement la responsabilité morale de la personne. Et dans ce cas, on peut avoir un acte qui reste un acte moralement mauvais, ce qu'on dirait intrinsèquement pervers, mais la personne n'en est pas responsable. Et c'est donc le juge qui doit l'estimer dans les pays, mais ils sont de moins en moins nombreux, où effectivement l'avortement reste illégal, ou aussi le confesseur. Quand on a quelqu'un qui vient s'accuser du péché d'avortement, c'est très important pour le confesseur d'estimer la responsabilité de la personne. Et qu'effectivement, dans ce choix, on peut parfois y être poussé par des circonstances sociales. Et c'est ça qu'il faut aussi pouvoir mesurer, aussi pour ouvrir un chemin de réconciliation et de pardon possible. La justice générale exige d'ailleurs que l'État promeuve une authentique politique de santé publique, puisqu'il y a un droit subjectif à la santé. Mais là encore, il y a de grandes disparités, de différences d'accessibilité aux soins et aux traitements, et s'il y a effectivement de trop grandes inégalités, c'est-à-dire une incapacité pour certaines catégories de citoyens d'accès aux soins, eh bien là, il y a effectivement une situation injuste. Cependant, la prise en charge de la santé ne doit pas faire oublier la responsabilité de chacun par rapport à sa propre santé et à celle de ceux dont il a la charge. Et là aussi, suivant les cultures, il y a des pays qui vont beaucoup insister sur la responsabilité personnelle. En gros, c'est à vous de vous assurer. Plutôt, je pense, c'est système plus anglo-saxon. Et puis, les pays latins ont plus effectivement un système en général de solidarité nationale. Alors là, pour le coup, il ne s'agit pas de dire que tel système est plus juste ou moins juste. C'est là où on voit effectivement les différentes mentalités à l'œuvre. Alors, se pose aussi la question de la peine de mort. Donc, vous savez qu'elle a été longtemps justifiée par les plus grands théologiens et par le magistère. Et donc, elle semblait être justifiée par le bien commun dans des circonstances bien précises. Par exemple, la valeur d'exemple dans des périodes de crise pour empêcher un développement anarchique du mal ou de la panique. Et donc, on ne peut pas dire qu'elle est intrinsèquement mauvaise ou absolument injustifiable. Mais en revanche, et c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, on peut penser qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, elle semble toujours disproportionnée et donc inutile au regard des conditions actuelles de paix civile et de justice. Et donc on peut tout à fait militer contre la peine de mort pour des raisons philosophiques ou spirituelles.
Je pensais que la position de l'Église serait ferme sur la peine de mort.
Contre ?
Ouais.
Non, il y a toujours. Alors, c'est plusieurs arguments. Il y a le fait aussi justement du bien commun. C'est que parfois, c'est toujours la même comparaison n'est pas raison. Mais c'est-à-dire, quand on a un membre qui est malade, il faut parfois mieux l'amputer plutôt que de laisser le risque que tout le corps soit contaminé. Encore une fois, on peut très bien ne pas du tout être convaincu par ce genre d'argument, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'être partisan de la peine de mort, ça ne vous met pas, si je puis dire, au banc de la société chrétienne. Voilà, c'est...
Est-ce que l'humain a une chance de salut, de rédemption ou de...
Ça dépend des dispositions de celui qui est... Mais ça vaut pour... On pourrait dire même au contraire, le fait d'avoir à se préparer, ça peut-être que... Parce que là, au moins, c'est attendu. Donc...
Faire le coin.
Pour le coup, dans le cas de la justice générale, on n'a pas d'abord à s'occuper du salut de l'âme de celui qui est condamné. Oui, mais quand on rend la justice, alors l'amendement du coupable, c'est un des objectifs, mais aussi le rétablissement de la justice générale et aussi la réparation du mal commis. Est-ce que le mal est commis en ajoutant la mort à la mort? C'est plutôt des criminels qu'on condamne à mort. C'est pas du tout. Et je comprends qu'on conteste tout à fait. De même, tous les arguments pour dire mais c'est inefficace, parce qu'en plus. Vous savez très bien que quand on condamnait à mort dans les dernières années en France, en plus, les exécutions n'étaient pas publiques. Je ne suis pas du tout pour le caractère public, mais on peut dire du coup le caractère, l'exemplarité n'existe plus quand on a été guillotiné à 6h du matin. Non, maintenant, justement, dans la cour de la santé ou de la prison des Baumettes, je crois que la dernière exécution, ça a été à Marseille. Donc effectivement. Mais c'est pas, on ne va pas le dire que c'est un mal absolu. Enfin, que c'est pas. Enfin, comme d'autres droits qui se rattachent au droit à la vie, donc le droit à l'intégrité corporelle, le droit à la liberté physique, même si elle reste conditionnée. Évidemment, quand on est mis en prison, on attend. Donc, c'est pas un droit absolu. C'est pas un droit absolu. Ou qui peut être aussi, donc, ce droit à la liberté physique, c'est-à-dire de se rendre où l'on veut, peut être régulé par l'autorité de chaque État, qui, d'ailleurs, au nom du bien commun. Celui de la communauté nationale peut et doit décider des modalités de l'accueil des étrangers, tout en distinguant effectivement les réfugiés politiques de l'immigration économique. Donc là, il y a aussi un discernement. Alors c'est un débat qui en France est un peu brûlant, mais enfin, la communauté politique a le droit de réguler l'immigration dont elle fait l'objet. Alors après, ça dépend effectivement des options politiques. Donc certains peuvent être pour un accueil très généreux, d'autres pour une politique beaucoup plus restrictive. Mais encore une fois, la liberté fondamentale que l'on a de physique, que l'on a de se rendre où l'on veut, de demeurer où l'on veut, est quand même régulée par le droit aussi de la communauté politique du pays qui nous accueille. Et ça, c'est aussi très important d'avoir ça bien en tête. Et là, c'est évidemment un exemple où, pour le coup, le droit particulier risque d'entrer en conflit avec le droit général. C'est-à-dire que la justice générale va estimer que, point trop d'en faux, si je puis dire. Mais il y a peut-être beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais attendez, moi, j'ai le droit à m'installer dans votre pays. » Voilà. Maintenant, donc, deuxième point, le droit des biens matériels. C'est le principe, c'est qu'on ne peut pas poser un acte, comme d'ailleurs le rappelle le serment d'Hippocrate, pour tuer, qui tue. En revanche, on se doit de soigner la douleur. Et là, c'est un exemple du volontaire indirect. Parfois, on sait très bien que si on augmente les doses de morphine, ça va entraîner la mort. Mais bon, à partir du moment où il n'y a pas d'espoir, c'est tout à fait légitime. Bon, il y a aussi la sédation. Hein. Bon, voilà, alors pour le dire en un mot, mais la difficulté morale que pose la loi Leonetti, qui est acceptable, on va dire, dans ses grandes lignes, mais c'est qu'elle assimile l'hydratation et la nourriture comme des soins disproportionnés. Donc là, c'est non, c'est pas. Donc on se doit d'hydrater. Voilà. Enfin, alors, bon, les gens vont dire oui, mais ils sont sédatés, donc ils ne souffrent pas. Dire oui, non, sans doute, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Là, pour moi, c'est. Enfin, je connais pas le. Mais c'est vraiment un point de. Je pense que pose vraiment un problème que pose la loi Leonetti. Maintenant, le fait d'accompagner, y compris par les soins palliatifs, de que l'objectif ce soit vraiment à un certain moment, non plus de combattre la maladie, mais d'accompagner la personne qui meurt. Voilà, exactement. Un changement thérapeutique n'est pas acceptable, surtout si la personne s'y oppose. Il y a un changement, ça c'est. Il faut aussi noter les évolutions positives. Je pense que dans les milieux hospitaliers, il y a de ce point de vue-là. Enfin, moi je sais qu'en raison de mes fonctions d'aumônier militaire, j'ai fréquenté beaucoup les hôpitaux, je dirais, de la néonate aux soins palliatifs, et j'ai toujours été très frappé par l'humanité, hein, vraiment, nonobstant les questions de sentiments religieux ou non, mais de. Sentiment religieux qui, par ailleurs, était respecté, tout à fait respecté, quand la personne qui mourait était accueillie, et de voir d'ailleurs comment ça pouvait être étonnant aussi des phénomènes de, non pas de résurrection, mais d'amélioration juste avant de mourir, pour pouvoir partir dans les meilleures conditions qui soient, y compris de pouvoir dire au revoir à sa famille, enfin tout ce qui apaise considérablement. Bon, ça se passe pas toujours comme ça, faut pas non plus. Mais encore une fois, c'est une manière. Je crois qu'il y a eu un petit changement de mentalité chez beaucoup de médecins qui a été de dire, encore une fois, on ne lutte pas contre la maladie, puis si la maladie gagne, tant pis. Mais vraiment d'accompagner. Je crois que c'est le maître mot, d'accompagner de manière humaine et pour nous chrétiens spirituels. Les personnes qui.
Ce qui est très compliqué, c'est la relation, notre relation et la relation de civilisation à la mort.
Oui, alors c'est ce que ça manifeste, oui.
C'est toutes les incohérences qu'on voit en ce moment, où d'un côté on met des moyens disproportionnés pour empêcher de mourir,
d'un
côté on dit.
Oui, tout à fait. Ou alors pour revenir à l'origine de la vie, effectivement, à la fois le recours, pour le coup, l'utilisation de l'avortement comme un moyen contraceptif, et par ailleurs, pour le coup, quand les enfants ont du mal à arriver, alors là, le GPA, PMA, enfin, un développement au service du désir d'enfant. Là aussi, la question est de savoir, est-ce qu'il y a un droit à l'enfant ou est-ce qu'il y a d'abord des droits de l'enfant? Enfin bon, c'est des questions. Mais justement, ça, je voulais juste vous présenter un petit peu les principes de base. Alors, le droit des biens matériels. Donc, le premier est effectivement le droit de propriété. Hein, ce droit de propriété qui s'étend à la terre, mais aussi à ce qui est le produit ou le fruit de son travail ou celui de nos ascendants. Cas de l'héritage. Et donc, il y a un droit fondamental d'utilisation des choses inanimées ou vivantes, dont la finalité est le service de l'homme. Il y a donc aussi un droit naturel fondamental à la possession. Cependant, on ne peut pas dire que tel bien me revient de droit naturel. J'ai le droit de posséder, mais voilà, au nom du bien, alors c'est parfois un peu douloureux, mais au nom du bien général, on peut très bien me faire renoncer à un bien particulier, l'expropriation, par exemple. On imagine que c'est le bien commun qu'une autoroute passe à travers votre jardin, eh bien, voilà, ça va être pénible, vous allez faire des manifestations, vous allez mettre des grands calicots et non à l'autoroute ou que sais-je encore, mais il n'empêche qu'après tout un processus légal, eh bien, normalement, vous devez vous plier contre indemnité, parce que là, pour le coup, si l'État se polie, eh bien, il pêche contre la justice générale. Mais tout ça pour dire que le titre de propriété reste une convention légale, une convention positive. Hein, c'est que je n'ai pas, encore une fois, droit à posséder tel bien. Mais le droit de propriété m'est reconnu comme un droit radical. Alors pour saint Thomas d'Aquin, la propriété est un droit, mais c'est aussi une conséquence du péché originel. Pourquoi ? On sait très bien que, justement, en raison du péché originel, l'indivision, on en parlait ce matin à propos de l'entreprise, mais l'indivision a de multiples inconvénients. C'est-à-dire qu'on va négliger ce qui n'est pas propre. Il suffit d'ailleurs de voir dans les familles, effectivement, les tensions, disputes, et division sous le régime de l'indivision. De ce point de vue-là, le marxisme, justement, apparaît comme une négation du péché originel. Puisqu'en quelque sorte, il veut rétablir la justice originelle, mais sans le Christ, en abolissant la propriété.
Dans les apôtres, où les...
Tout à fait. Bah,
et puis... où on appelle les communautés, oui. Ceux qui ont plus, ceux qui ont moins.
Oui. Bah, c'est plus que ça, c'est qu'il y a une mise en commun, et donc du coup. Oui. Mais ça, alors l'idée, c'est que ça, c'est valable pour des micro-sociétés comme la vie religieuse. Le vœu de pauvreté fait que nous n'avons pas, et même dans certaines communautés, on renonce même au droit de propriété. Mais ça, c'est effectivement des communautés volontaires. C'est parce qu'on veut bien, et on ne veut pas l'imposer comme mode général d'organisation de la société. Voilà. Voilà. Ensuite, ce n'est pas un droit absolu. Comme je le disais, la puissance publique peut légitimement, au nom du bien commun, c'est-à-dire de la destination universelle des biens, retirer la propriété d'un bien à un particulier, à condition, bien entendu, que la personne privée reçoive une juste indemnité. Ah oui. Oui, alors ça c'est oui, c'est sûr que quand c'est sacralisé, effectivement, ça pose un. Oui, oui, mais ça s'organise assez bien, oui. Alors du fait, oui, peut-être d'un système beaucoup plus individualiste que le nôtre. De même, l'existence de l'impôt ou d'un système fiscal, eh bien, est une exigence, on va dire, de la justice générale. Alors le droit à la propriété est bafoué par le vol, qui est péché contre la justice commutative. Alors, est-ce qu'on peut définir le vol ? Ben oui, c'est prendre le bien d'autrui contre la volonté raisonnable du possesseur. Voilà. Oui, du raisonnable, oui. Alors, avec la complexité de l'organisation des sociétés, au-delà de l'économie, alors, l'économie, étymologiquement, c'est l'économie de la maison. Hein, c'est la bonne marge de la maison, hein, en grec. Donc, est apparu un réseau d'échanges, d'évaluation des valeurs, de symbolisation des biens par les monnaies, donc au-delà du troc primitif. Et dans ce champ, dans ces réalités-là, eh bien, c'est encore la justice commutative qui doit régner. Autrement dit, celui qui fait commerce de quelque chose ajoute à la valeur intrinsèque du bien le service de procurer ce bien et de le mettre à disposition. D'où le droit moral qu'il peut en tirer un bénéfice. Parce que c'est pas évident, hein, de penser qu'on puisse, parce qu'on met, on pourrait imaginer ça spontanément, ben, dans ce cas, ce que tu fais, tu me le vends au prix de revient, par exemple, on pourrait dire ça. Ouais, mais le fait d'y avoir travaillé, le fait de le mettre à disposition, ouvre le vendeur à un droit de vendre un peu plus cher que le, je pense que ça doit tous vous rassurer, mais que le bien, voilà. Alors, de même, le prêt à intérêt, et moral, c'est qu'il a été longtemps condamné à le prêt à intérêt. Alors oui, mais justement, alors l'usure, c'est quand c'est excessif. Mais même le droit. Pourquoi ? Parce que. Mais quelle est la justification morale ? Eh bien, c'est que le prêteur accepte que son argent soit immobilisé un certain temps et donc qu'il n'en tire pas bénéfice le temps du prêt. Et de plus, il permet des investissements et donc une création de richesse. Donc le crédit. Mais ça, c'est qu'au XVIe, XVIIe siècle hein, qu'on a. Comment dire, puis élaborer ces principes moraux. Oui. Donc le crédit et le prêt sont donc moralement acceptables dans notre système actuel. En revanche, l'usure, c'est-à-dire le fait de prêter l'argent à un taux exorbitant, comme le fait d'accaparer des biens matériels dont on organise artificiellement la pénurie, hein, surtout quand on est en situation de monopole, eh bien, cela constitue un comportement proprement immoral. Et en plus, comporte le risque de voir sa tête se promener au bout d'une pique. Le commerce est absolument nécessaire et il fait partie.
Est-ce que vous avez vu les premiers épisodes de Chosen?
Non. Sur le Christ, non. Ouais, non. Parce que c'est le cas, il y a des accapareurs.
Non, il y a Saint Matthieu.
Ah oui, d'accord, oui.
Il y a quatre personnages.
D'accord,
qui est un petit peu. Un peu autiste.
Oui.
Il y a effectivement cette usure.
Bah oui, parce que bon, l'autorité d'occupation, donc déléguée en quelque sorte par délégation de service public, les personnes d'impôt, mais c'est eux-mêmes qui après, donc Mathieu, Zaché, etc., qui fixaient eux-mêmes après le taux de leurs propres bénéfices. Donc effectivement, ça, un peu comme l'organisation des fermiers généraux avant la Révolution française, hein, où en quelque sorte on privatisait la collecte de l'impôt, puisque c'était les fermiers généraux qui avançaient l'argent à l'État. Puisque, aussi étonnant que cela puisse paraître, mais l'État français était relativement pauvre au moment de la Révolution française, bien qu'étant une nation riche par ailleurs. Enfin, la France était une nation riche, mais avait un État pauvre. Et donc on comprend du coup que les fermiers généraux, qui se payaient aussi un peu sur la bête, étaient plutôt impopulaires. Mais grâce à Dieu, nous avons maintenant un système fiscal parfaitement équilibré et équitable.
Voilà,
transparent. Donc le commerce est absolument nécessaire et il fait partie intégrante de l'insertion d'un individu dans une société. Il permet l'entraide et la solidarité, et donc offre aussi l'occasion pour le chrétien de pratiquer ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde temporelle. Mais il peut être aussi l'occasion, par excès, d'un dévouement contre lequel le Christ nous met en garde. C'est l'appât du gain et le souci excessif des biens matériels, ce qu'on peut appeler le matérialisme pratique. Oui, tout à fait, parce que là, c'est effectivement, tout le monde est d'accord pour dire ben, qu'il fallait un peu d'argent pour faire tourner le temple. Hein. Il faut qu'il y ait la quête le dimanche. On ne va pas scier la branche à laquelle on est assise. Mais par ailleurs, le souci excessif, quand justement il y a un renversement et que ben, le temple est vu simplement comme une machine à cash, eh bien là, effectivement, il y a un dévoiement très profond de la vertu de religion, hein, justement. Donc c'est toujours se rappeler que tout cela a une valeur de moyen. Et à cause du péché originel, encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'interdire ni l'argent ni le commerce, mais en raison du péché originel, on sait très bien que l'argent peut être mis au service de la soif de domination qu'on a tous. Donc il y a toujours besoin de purifier en quelque sorte ces sentiments et ce pourquoi, et ces motivations. Donc, et ça, c'est vrai que c'est quand même une chose qui revient souvent dans l'enseignement du Christ, d'autant plus aussi que tout cela a aussi des répercussions sur l'environnement humain et naturel, hein, par exemple l'épuisement des ressources naturelles, ça on peut y voir comme un manque d'esprit de sobriété, et puis à la source aussi de bien des guerres. La recherche des ressources naturelles ou la préservation ou l'accaparement des ressources naturelles ou en métaux rares ou en hydrocarbures, voire en eau potable. On est en train de se demander si à l'avenir les conflits auront pour motivation le fait de pouvoir s'accaparer les sources en eau. C'est un exemple aussi du dévoiement d'un souci excessif des biens matériels. Et puis enfin, il faut noter l'importance morale du travail, hein, comme l'a montré Saint Jean-Paul II, qui a beaucoup développé cette question-là. Hein. Le travail n'est pas d'abord, ce n'est pas une conséquence du péché originel, pour le coup, c'est le caractère laborieux, pénible du travail, qui est une conséquence du péché originel, mais Dieu a établi l'homme gardien de la création. Et c'est donc par le travail que je parfais mon humanité. Je contribue au bien commun, et je m'insère aussi dans la société. Voilà pourquoi le chômage est une vraie violence. Alors l'industrialisation et la mécanisation des moyens de production ont pu aussi conduire à une conception dégradante du travail humain, donc par son caractère répétitif. Mais je dirais qu'aujourd'hui, justement, la robotisation permet de se libérer de ce caractère pénible et aliénant du travail, tout en menant aussi à des pertes d'emploi. Principe de destruction créatrice de Schumpeter. Alors là aussi, l'Église n'a pas grand-chose à dire là-dessus, mais de rappeler qu'effectivement, peut-être qu'on a cette opportunité de rendre au travail vraiment sa valeur d'humanisation. Puisque le caractère peut-être le plus pénible et le plus répétitif, aujourd'hui peut-être mécanisé et accompli par la robotisation. Donc, il n'y a pas de condamnation a priori de ce mode d'organisation du travail. Mais je dirais qu'il se pose une forte structure morale et une réflexion sur les conséquences à long terme, spécialement enfin, contre le cynisme de la recherche du simple profit. Là aussi, on en parlait. Mais c'est vrai qu'à long terme, cela a des conséquences très, très graves sur le développement humain. Pour ce qui est des analyses et des actions à mener, donc là, je renvoie à ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, mais je ne fais qu'indiquer l'esprit dans lequel cette action doit être menée. Je rappelle aussi que la justice est là pour régler les tensions et les conflits dans le monde du travail. Et donc, par exemple, la justice distributive se doit d'accorder différentes aides aux salariés au-delà de la question du salaire, l'allocation, sécurité sociale. La justice générale peut encourager des modes nouveaux d'organisation, comme la participation ou la cogestion, donc offrir en fait le cadre légal de nouvelles relations dans le travail. Et puis enfin, défendre aussi la primauté toujours du politique sur l'économique, voire sur la finance. Je vous rappelle le conseil du baron Louis à Guizot, donc sous le règne de Louis-Philippe. Donc le baron Louis qui a servi un peu tous les régimes, mais qui a toujours été un bon serviteur de l'État. Et c'est lui qui, je crois, a donné les statuts à la Banque de France, enfin voilà. Et ce qu'il disait à Guizot, donc qui lui était président du Conseil, « Faites-nous une bonne politique et je vous ferai de bonnes finances. Voilà. » Alors, troisièmement, le droit des biens immatériels. Alors, il n'y a pas que l'échange dans une société de biens matériels. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les biens incorporels de la personne, comme l'honneur, la réputation, l'amitié, le droit à l'intimité, etc. Ah oui, c'est bien possible.
Vous avez mis contre l'exercice de la justice.
Alors, ce sera le quatrième.
D'accord.
Ah non, autant pour moi. Non, c'est toujours dans le point... Attends, on va essayer de faire les choses avec un peu de rigueur. Donc le grand 1, c'était la vertu de justice proprement dite. Le grand 2, les différents champs d'application de la vertu de justice et des péchés qui s'y opposent. Premièrement, le droit à la vie. Deuxièmement, le droit des biens matériels. Et effectivement, troisième point, le droit des biens immatériels. Oui, c'est ça. Oui, non. Donc, je ne me suis pas trompé. Voilà. J'ai pas été... Et puis aussi, la question de la communication des biens de l'esprit par l'éducation, la formation et l'information. Domaine qui a pris aussi aujourd'hui une extension très importante. Alors d'abord, l'institution judiciaire, dont je ne vais pas vous faire un cours sur le droit, mais souligner que l'institution judiciaire est au service de la justice et de la vérité. Contre la judiciarisation de la société, dont le but... dont la conception consiste dans un but lucratif à établir toujours un rapport de force s'appuyant sur la multiplication des normes juridiques ou administratives. Enfin, en tout cas pour les cabinets d'avocats, oui.
Oui.
Alors, en tout cas... Alors, en fait... La vertu de justice telle qu'elle est vécue dans l'institution judiciaire se doit de dire le droit des personnes physiques ou morales d'arbitrer les conflits, de défendre les victimes et de punir les coupables. Et donc la mission du juge est de tout mettre en œuvre pour prononcer une sentence juste et équitable. À ce titre, donc, il n'agit pas comme une personne privée faisant valoir son intime conviction, mais il fait appliquer la loi. Si cette loi est manifestement injuste, on sait bien que d'après saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas de loi, mais de fait, positivement, ça peut arriver, eh bien, il doit au moins faire valoir son droit à l'objection de conscience. Alors, je vous donne un exemple. On peut tout à fait condamner le divorce. Mais il n'empêche que s'il y a divorce, le juge doit intervenir pour au moins que les droits de la personne la plus faible soient respectés. Autrement dit, le juge chrétien ne cherche pas à ouvrir la possibilité d'une nouvelle union, mais il règle de façon la plus juste possible une séparation, alors que la persistance de la vie commune n'est plus possible ou a été irrémédiablement rompue. Donc, alors, je ne pensais pas faire de la casuistique, mais effectivement, on peut, je pense, enfin, un juge chrétien peut juger des affaires familiales. D'autant plus qu'il y a quand même si c'est jamais appliqué, mais il y a normalement une tentative de conciliation qui est souvent purement formelle, mais qui peut être l'occasion pour le juge au moins d'attirer l'attention de ceux qui demandent le divorce donc d'attirer leur attention sur leur responsabilité. Je vous cite le père Labourdette, un théologien moraliste dominicain. « Il n'est pas opportun que pour des raisons de ce genre qui sont surmontables, les juges chrétiens ou n'importe quel juge consciencieux abandonnent une carrière où leur présence est particulièrement nécessaire. » Donc, autre point important, c'est le respect du droit de la procédure, puisqu'on ne peut pas recourir à n'importe quel moyen pour parvenir à la vérité. Le respect aussi du droit des victimes, comme des suspects, doit être rigoureusement respecté par le juge et tous ceux qui participent à la procédure. Alors ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez bien mis en œuvre et mis en valeur.
C'est l'histoire du médecin de mer. Il soignait un monstre, mais il soignait des victimes.
Ah oui, c'est ça, voilà. Alors, les biens incorporels de la personne. Il y a d'abord le droit à l'honneur, c'est-à-dire à la reconnaissance de la dignité de chaque personne qui jouit en quelque sorte d'une nature honorable. Alors aujourd'hui, c'est plutôt de la revendication, qui revient beaucoup chez les jeunes, mais c'est du respect. Cependant, cette dignité de la, c'est plutôt une dignité liée à la nature plus qu'à la personne. Je veux dire par là que c'est une réalité qui est incoative. C'est qu'il y a des personnes qui, effectivement, se comportent de manière indigne. Donc, ce qu'on respecte en elles, si je puis dire, c'est la nature humaine. Et donc, l'honneur doit aussi se mériter, se gagner. C'est pas quelque chose d'inné. L'ordre juridique se doit de respecter à égalité la dignité de chaque être humain, et ce, donc, de sa conception à sa mort naturelle. Cependant, en théologie morale, on pourra toujours estimer qu'une personne a un comportement indigne ou déshonorant, même si, ultimement, effectivement, on laisse à Dieu le jugement. Nous honorons dans autrui la nature humaine qui le rend capable de devenir, par grâce, fils de Dieu. Et donc, nous l'aimons d'un amour de bienveillance, c'est-à-dire que nous voulons son bien, mais nous n'excluons pas la possibilité que cet être humain se montre indigne de la nature humaine, en adoptant un comportement infra-humain ou inhumain. Alors, on attente à l'honneur par l'injure, la médisance ou la calomnie. Alors, l'injure, vous savez, c'est le fait effectivement d'insulter quelqu'un face à face. La médisance, c'est le fait de dire du mal de quelqu'un, sachant que ce mal est vrai. Et la calomnie, c'est inventer, attribuer à une personne des défauts qu'elle n'a pas ou des mauvais comportements qu'elle n'a pas eu. Et donc, elle se répare, donc cette atteinte à l'honneur, par la réparation du dommage fait, des excuses publiques, ou au moins auprès de la victime et de tous ceux qui ont eu vent de l'injure, de la médisance ou de la calomnie. Alors, en général, on estime la calomnie plus grave que la médisance. Cependant, il faut aussi voir que la calomnie peut se réparer facilement, il suffit de rétablir la vérité. Ce qui est délicat avec la médisance, c'est que c'est vrai. C'est vrai que Saint-Thomas dit que la médisance est encore pire que la calomnie. Et je trouve que psychologiquement, c'est très fin.
Je
ne
pas
c'est ça, je suis désolé, c'est vrai. C'est ça. C'est-à-dire, je regrette de l'avoir dit. Alors, il y a aussi l'amitié comme bien de la justice. Aristote le dit lui-même, sans véritable ami, qui accepterait de vivre ? Parce qu'elle unit les membres d'une même société, d'une même communion, qui partagent une même communauté de destin, et donc qui constitue une situation affective stable, et je dirais polarisé et finalisé par un but commun. Alors c'est vrai pour la famille, mais c'est vrai aussi pour tous les types de regroupements que nous pouvons connaître dans une société. Et l'appartenance d'ailleurs est une réalité essentielle parce qu'elle définit une identité, qu'elle soit d'ailleurs naturelle ou surnaturelle. Non, mais le drame aujourd'hui, c'est de considérer que l'identité ne se reçoit pas, mais qu'elle doit se construire. C'est à chacun de constituer sa propre identité. Alors, il y a quelque chose de vrai, ce que Jean-Paul Sartre disait, je suis, du verbe être, je suis mon projet. Mais ce n'est pas à moi de décider, je ne peux pas décider de mon genre, je ne peux pas décider de mon sexe, je ne peux pas décider mais je dois essayer, dans la perspective chrétienne, de m'approprier cet héritage, de me l'assimiler, de le faire mien, pour pouvoir après le rayonner, le transmettre, éventuellement l'enrichir et le communiquer. Mais vous voyez, on est dans une logique d'identité, d'héritage et d'accueil. La perspective moderne est plutôt de devoir à chaque fois tout reconstruire. Ce qui explique sans doute le haut taux de dépression nerveuse, parce que c'est quelque chose quand même d'extrêmement fatigant, hein, de devoir toujours se... Alors, c'est un côté très exaltant, très romantique, très apparemment, mais on se rend bien compte que c'est absolument pas réaliste. Et la crise, y compris la crise dans l'Église, c'est déjà ce que Jean-Paul II disait dans son grand texte sur la formation des prêtres, mais il disait la crise de l'Église, c'est d'abord une crise du sacerdoce, et la crise du sacerdoce, c'est d'abord une crise d'identité. Qui s'explique aussi par des tas de la sécularisation, mais fondamentalement, on ne sait plus très bien qui on est. Hein. Alors, quels sont les péchés contre l'amitié ? Je dirais que c'est la division interne, c'est la zizanie. Alors la zizanie, c'est un péché contre la justice commutative. C'est une conséquence du péché originel et, nous dit Jésus, le résultat de l'action du démon, justement, par la parabole là, du bon grain et de l'ivraie. Mais l'ivraie, c'est, en latin, c'est zizania. Voilà. Donc les raisons de cette zizanie, ça peut être la jalousie, l'ambition, le désir de paraître ou de dominer, l'oubli de la finalité qui transcende, et je dirais l'individualisme. C'est-à-dire qu'on se transforme comme on devient la finalité du groupe, alors que la finalité du groupe, c'est pas moi la finalité du groupe, c'est le bien commun poursuivi. Alors, il faut quand même faire attention qu'il existe parfois un chantage à l'unité, hein, et à la communion. Et donc, ce qui est premier, c'est toujours la vérité. C'est ça qui fait il n'y a pas de communion sans vérité. Voilà pourquoi on n'a pas à obéir, c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de communautés nouvelles qui ont connu des dérives sectaires, hein, ou qui ont donné l'occasion pour les fondateurs à de graves manquements, non seulement à la charité mais aussi à la justice. Eh bien, c'était sans doute parce qu'il y avait aussi une conception de l'obéissance aveugle qui n'est pas évangélique. Encore une fois, la référence, ce n'est pas la parole du supérieur. La référence, c'est toujours l'évangile. Et comme je le disais aussi, hein, il y a une unité dans la foi, mais il y a aussi une grande diversité de spiritualité, de sensibilité liturgique, de formes de vie religieuse ou associative, de méthodes apostoliques. Alors, il ne peut pas y avoir de divergence quant au contenu essentiel de la foi, hein, en gros tel que le catéchisme, hein, de l'Église catholique. En revanche, il y a une grande divergence, et c'est tout à fait normal, ou il y a plutôt une grande diversité dans tout ce que je viens d'énumérer. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'impression que c'est le contraire. On admet parfois des expressions de la foi qui sont extrêmement diverses, et en revanche, on voudrait que tout le monde suive le même chemin. Donc là, il y a un peu, entre doctrine et pastorale, hein, il y a un peu des tensions. Voilà, donc par exemple, dans dans le gouvernement de l'Église, il faut être très très attentif, encore une fois, à laisser cette liberté aux gens de prier, de suivre encore une fois telle ou telle sensibilité, de ne pas vouloir tout imposer. Mais si effectivement une sensibilité dans son expression va contre la foi, là il faut bien le manifester. Voilà, c'est comme ça que se fait la régulation, on va dire, dans l'Église. Bon, je peux vous entendre parler des mesures à propos de la liturgie dite traditionnelle, mais on peut se demander, c'est une question que je pose, mais si effectivement le fait de vouloir absolument réduire à pratiquement rien, ce qui est quand même un courant qui existe dans l'Église, qui n'est pas majoritaire, mais qui représente quand même quelque chose, si ça correspond à une véritable, on va dire, prudence pastorale, charité pastorale et justice, hein, puisque c'est des groupes de fidèles auxquels, par ailleurs, depuis 40 ans, on a reconnu aussi des droits. Donc voilà, donc pour moi, c'est créer des tensions un petit peu inutiles, là où effectivement il faudrait d'abord regarder, on parlait de l'unité, on parlait de l'œcuménisme là tout à l'heure, enfin avant de commencer, voilà, il est évident que l'unité dans l'Église se fait encore une fois autour de la doctrine, après qu'il y ait des expressions liturgiques, qu'il y ait des rites orientaux, enfin si je puis dire, ça ne choque personne, et on dit bien que c'est contraire à la richesse, cette diversité est source de richesse, bon, ben, ce serait bien que nous le vivions aussi, je dirais, à l'intérieur de l'Église catholique. De même, on peut dire, pour revenir à la crise de la pédophilie, hein, cette crise a manifesté donc chez beaucoup de pasteurs des manquements graves à la vertu de justice, hein, en négligeant leur devoir de vigilance et de correction des abus. On a tous dit, ben oui, on déplaçait les personnes, ben non, c'est pas suffisant. et puis aussi en ne faisant rien pour promouvoir les institutions judiciaires de l'Église. D'autant plus que c'est une mission, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Église, dans son organisation judiciaire, laisse une large part aux fidèles. C'est une, aux fidèles, aux laïcs, je veux dire. L'organisation des tribunaux ecclésiastiques, pratiquement maintenant, toutes les fonctions peuvent être accomplies par des fidèles laïcs, hein, des fidèles baptisés. Donc, c'est bien le signe que là, ça pourrait être... Alors, je ne sais pas que c'est... Si, encore une fois, je ne veux pas dire que tout passe par la judiciarisation, justement, mais le développement... normal des institutions judiciaires, je pense, aurait permis, dans le but que c'était prévu hein, dans les textes, aurait permis, je pense, d'éviter bien des difficultés qu'on a eues. Voilà. Enfin, chaque personne humaine a droit au respect de son intimité. Cela se caractérise d'ailleurs dans l'Église par la distinction entre ce qu'on appelle le fort interne et le fort externe. Le fort interne, c'est ce qu'on va dire à son directeur spirituel ou à son confesseur. Voilà pourquoi, normalement, dans l'Église, on ne se confesse pas à son supérieur. Justement, pour préserver ma liberté, mais pour préserver aussi sa liberté à lui. Le supérieur, il agit selon ce qu'il voit au fort externe, c'est-à-dire ce qui est visible. Imaginons qu'un supérieur dise à un frère, ben, je ne sais pas, tu as eu tel comportement qui est contraire à la règle. Oui, mais j'avais plein de bonne volonté, c'est pas le problème, si je puis dire. On peut sourire de ses motifs, mais il n'empêche que le supérieur, il va toujours gouverner au fort externe. Laissant au fort interne, eh bien, le religieux libre de s'adresser au confesseur qu'il veut ou au directeur spirituel qu'il veut. Mais d'un autre côté, le supérieur, l'inférieur, enfin celui qui doit obéir, ne peut pas dire « Ah ben oui, mais mon directeur spirituel n'est pas d'accord ». Si on vous confie une mission qui est prévue dans la congrégation, hein, puisque un supérieur ne peut donner des ordres qu'en fonction en fidélité aux constitutions. Il ne peut pas demander, le père Éric ne peut pas demander à un serviteur de Jésus et de Marie de se faire chartreux. Parce que, non, je suis désolé, c'est pas prévu comme ça dans nos constitutions. En revanche, il peut assigner un frère dans n'importe quelle maison de la congrégation et de lui donner une mission qui est conforme à nos constitutions, spécialement l'éducation de la foi des jeunes. Bon, voilà. Et le frère en question, il peut dire « Ah mais non, mon directeur spirituel, il veut pas. » Parce que là, ça n'en est pas au même. L'éditeur spirituel, il est là pour m'aider à vivre au mieux, que je puisse aller pleurnicher auprès de lui en disant « Oui, mon supérieur, il m'aime pas, c'est pour ça qu'il me nomme là. » Peut-être, oui, mais ça c'est... Et puis, qu'il me donner les moyens aussi surnaturels d'accepter cette décision. Exactement, voilà, ça c'est ça qui est très très important à noter. En tout cas, c'est pas simplement une question de prudence, c'est une question de justice. Hein, c'est que, voilà, chaque baptisé a le droit de devoir respecter son intimité spirituelle. La communication des biens de l'esprit, eh bien, il s'agit donc du droit à la culture et à l'éducation. Je dirais deux domaines où l'expertise de l'Église, jusqu'à une date récente, au moins été reconnue. Et puis, c'est aussi un lieu possible pour la nouvelle évangélisation, hein, comme l'a montré Saint Jean-Paul II, qui a développé aussi toute une réflexion sur la culture, qui était liée à sa propre expérience. Mais lui a fait l'expérience que, justement, étant polonais, son pays a politiquement disparu, vous savez, au moins à deux occasions, a été rayé de la carte, et que c'est par l'identité culturelle et religieuse, mais aussi culturelle, que... la Pologne a pu survivre en tant que nation. Voilà. Il y a aussi le remarquable discours de Benoît XVI au Bernardin, à Paris, où justement il a montré que l'institution monastique avait, sans le vouloir, sans du tout l'avoir recherché, mais a sauvé l'essentiel de la culture gréco-latine, hein, en nous la transmettant, en nous la communiquant et en l'enrichissant, alors que le but du moine, c'était pas ça, mais c'était chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné de surcroît. C'est une illustration de la vérité de l'incarnation, hein, c'est que ne s'occupant que de Dieu, eh bien, tout le reste s'organise. Voilà. Et donc, normalement, l'évangélisation, la foi au Christ, est toujours la matrice d'une nouvelle culture, d'une manière nouvelle de se situer dans le monde, de témoigner et de vivre de la vérité, qui est une personne, le Christ. Donc on ne peut pas, à ce titre, en rester simplement à l'annonce kérigmatique. De la foi, c'est Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. le kérigme, c'est-à-dire le noyau dur de la foi. Alors c'est effectivement c'est essentiel, mais normalement, ce noyau dur de la foi, s'il communique vraiment le Christ, sa personne, sa grâce, eh bien, va susciter comme une nouvelle culture. C'est ce qu'on appelait, c'est ce que nous on a appelé au Moyen-Âge la chrétienté. La chrétienté, c'est pas l'Église, mais la chrétienté, c'est une manière de vivre, d'être, une civilisation en fait, qui s'origine à l'évangélisation. Alors même s'il a fallu mille siècles, non, pas exagéré, mais 1000 ans pour l'établir. L'éducation. Voilà pourquoi d'ailleurs l'éducation est d'abord le droit des familles, hein, parce que c'est la famille qui est d'abord le lieu de la transmission, non seulement de la vie, mais de la vie compris, pas simplement le fait biologique, mais la vie comme le monde des valeurs, des civilisations, etc. L'éducation comme l'instruction sont des lieux de la justice distributive, c'est-à-dire transmettre ce qu'on a soi-même reçu. Et donc la relation éducative est par nature inégalitaire. Elle permet de transmettre non seulement des contenus, mais aussi des méthodes pour explorer le réel toujours plus grand. De disposer les esprits à la recherche de la vérité, d'entretenir la soif du réel, sans vouloir tout réduire à une seule méthode. Et donc elle nourrit aussi, normalement, chez l'enfant, le sens des ce qu'on appelle des universaux, le bien, le vrai, le beau, et de la transcendance. Alors c'est vrai que d'un point de vue du contenu, c'est toujours le paix à ses cendres, mais l'argument que disait Michel Serres, vous savez, il disait maintenant, aujourd'hui, avec les technologies, les parents savent plus que les enfants. C'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est pas ça qu'on demande à l'éducation. Les enfants savent toujours plus que les parents, parce qu'évidemment, ils ont, bon, sur les moyens, mais pour moi, c'est pas un argument, parce que justement, les parents, voire les grands-parents, ont quelque chose de beaucoup plus précieux à communiquer que les enfants n'auront jamais, qu'ils ne trouveront jamais sur leurs écrans. Voilà, donc ça reste pour moi une relation qui reste inégalitaire et vraiment du plus vers le moins. Alors, ça ne veut pas dire une fois tous les éducateurs, les professeurs vous diront qu'ils reçoivent beaucoup de leurs élèves, c'est pas. Mais il faut quand même avoir contre le pédagogisme et, ce sens de bah oui, effectivement, nous transmettons quelque chose qui est plus grand que nous, dont nous sommes nous-mêmes les serviteurs. Et là aussi, c'est le principe de l'évangélisation fonctionne sur le même principe. Mais quand on dit que bah oui, les païens ont autant à nous apporter, ils peuvent aussi nous évangéliser, je crois qu'on fait un peu une confusion des genres. Il est bien sûr que les gens à qui on s'adresse peuvent être beaucoup plus vertueux que nous, peut-être, beaucoup plus courageux, beaucoup plus. Mais il n'empêche que l'Église leur apporte quelque chose qui est aussi plus grand qu'elle, qui est l'Évangile. Voilà. Voilà, je voulais encore dire un quatrième mot, mais ça va être sur le principe de la guerre juste. Alors savoir qu'il y a des critères objectifs qui justifient l'intervention, parce que très souvent on va dire bah oui non mais ça, les critères ne sont plus jamais réunis aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire au moment de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, qu'est-ce qu'il fallait faire au moment du Rwanda, qu'est-ce qu'il fallait faire, voilà, il y a des moments, alors sur le principe tout le monde va dire oui, la guerre juste ça n'arrive jamais, parce que c'est vrai que les critères tels que les définit saint Thomas sont pas toujours réunis, mais en attendant, par ailleurs, on sait qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en 39, voire en 36. Bon, en attendant, on a quand même bien des exemples dans l'histoire où, vous savez ce que disait Churchill à Chamberlain au lendemain des accords de Munich, vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur, mais vous aurez quand même la guerre. Bon, voilà, et donc je maintiens quand même, avec toute la tradition de l'Église, qu'il y a des situations où, ayant épuisé tous les autres recours possibles, eh bien, le recours à la force armée est légitime, voire est une obligation morale. Le tout est de faire que, après, si je puis dire, ça se passe sans trop de, comme on dit, de victimes collatérales. Voilà, c'est ça un petit peu le principe de la guerre juste aujourd'hui.